Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec du son et du sens.
En direct du studio 500, une émission réalisée par Hélène Bizio, assistée de Lucie Spindler avec à la technique aujourd'hui Philippe Duclos et Patrick Henry.
Au sommaire cette semaine, la butte rouge en danger et mémoire de la ruche, cité d'artistes à Paris.
Ça c'était le nom de Boucher, du créateur de la ruche. Il acceptait tout le monde ici. Il y avait Léger, il y avait Chagall, il y avait tous ces gens qui étaient là.
Et là, maintenant, on est en train de chasser de la première couronne les pauvres pour les emmener encore plus loin du centre, quoi.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, les bruits qui courent ?
Rassurez-vous, nous n'allons pas vous parler d'élections aujourd'hui, même si on y pensera très fort. Alors, de se suspendre avant vote, comme un bruit qui court, part pour deux histoires de lieux qui refuse de se terminer. Avec Charlotte Perry, nous allons à La Ruche, cité d'artistes dans le quartier Montparnasse, qui a hébergé Chagall, Soutine, Léger. Et si l'animation d'aujourd'hui a laissé la place à un silence nostalgique, Léonard Léoni, le peuple de souvenirs, qui tranche avec l'atmosphère policée d'un quartier dont les classes populaires finissent d'être chassées. C'est justement ce que veulent éviter les habitants de la Butte Rouge, où nous emmène Antoine Chao, une cité ouvrière des Hauts-de-Seine, monument de la culture populaire des années 30, qui risque de passer pour perte et profit des grands plans de développement. Alors deux histoires de lieux, pas pour vous dire que c'était mieux avant, mais pour se rappeler que la mémoire des lieux, c'est la mémoire des hommes, et que la mémoire permet au présent de rêver d'un autre futur. Alors jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, la butte rouge et la ruche, deux histoires de lieux qui ne veulent pas rentrer dans le passé.
Antoine Chao, Charlotte Perry,
Guy
Attention, ce train desservira toutes les gares en direction de Robinson. Merci. Sceaux, Fontenay aux Roses, Robinson.
La Butte Rouge, 3600 logements, 15 000 habitants. C'est l'une des premières cités-jardins construites dans les années 30 par Paul Sirvin.
La Butte Rouge, années 30, début du logement social. À Châtenay, Paul Sirvin met la ville à la campagne. Ensuite, après la guerre, d'autres logements ont été construits. Même architecte, mais autre style, celui des grands ensembles. Objectif, la quantité, reconstruction oblige. La cité jardin reste un laboratoire et un témoignage sur l'architecture des années 30. Et maintenant ?
Ben écoute, moi je m'appelle Nadia et j'habite la Butte Rouge depuis 30 ans. Voilà, je suis une châtenaisienne, j'y suis quasiment née et j'y suis restée. Des racines, dont je connais bien l'histoire de cette ville et puis de ma cité. Et je la connais bien et je l'aime bien aussi.
Oui, on s'inquiète du devenir de la cité jardin de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, en banlieue parisienne, qui est l'objet d'un plan de restructuration urbaine lié au Grand Paris. L'inquiétude est que la restructuration soit surtout sociale. Nous irons rencontrer Jean-Pierre Garnier, sociologue et urbaniste, qui s'est penché sur la question de la rénovation urbaine et de la métropolisation. Mais tout de suite, c'est Nadia qui vient nous chercher à la station de RERC Robinson, dans la commune de Sceaux, juste à la lisière de Châtenay-Malabry, pour nous emmener faire un tour dans la cité-jardin de la Butte Rouge.
Robinson.
Alors là, on est à Robinson, je viens de te prendre au RER et on va aller faire un petit tour de Châtenay parce que là, il y a vraiment un gros projet immobilier sur l'ensemble de la ville et je voulais juste que tu te rendes compte de l'étendue du phénomène avant d'entrer dans la cité qui est du coup presque pour le moment, en tous les cas, une zone privilégiée et protégée tellement il y a de nature et pour l'instant, les grues sont absentes.
Et on est tout près de Sceaux. Hein,
c'est l'intérêt, si tu veux, c'est pour les promoteurs, c'est qu'on est coincé entre le parc de Sceaux et le bois de Verrières. Donc c'est vraiment génial parce qu'il y a plein d'espaces verts et du coup, bah, c'est très alléchant. En plus, on a le théâtre, un théâtre de scène nationale, un cinéma, enfin on a déjà toutes les infrastructures qui peuvent voilà, plaire à la classe moyenne supérieure. Et tu vas voir, on a même vu émerger des petites boutiques bio. Ça c'est nouveau, mais ça va avec la future, voilà, la future population qui est censée venir habiter ici. Elle est là. C'est tout nouveau, ça. Voilà, quoi. Alors voilà, là, t'as vu, on est le long de la division Leclerc, on va vers la Butte Rouge, et à droite comme à gauche, c'est que des immeubles récents ou en train d'être construits. On est dans un chantier absolument permanent. c'est le Grand Paris, voilà, c'est le bétonnage à fond. C'est un truc de fou, on ne peut plus circuler, tu as vu, il y a des travaux partout. Et ça y est, on rentre là, tu vois, on est, voilà, là tu as les premiers bâtiments, ça y est, là à partir de maintenant, là, on est dans la Cité Jardin. Donc du coup, tu vois, c'est des bâtiments orange qui sont de petite taille puisqu'ils sont 3, 4, max, tu vois, 5 étages. Mais bon, majoritairement, c'est plutôt 3 étages. C'est vraiment les premières cités, on pourrait dire, éco-quartiers. Parce qu'à la fois, bon, et tu vas le voir, il y a autant, sinon plus, d'espaces verts que de bâtiments. Il y a des bois, des parcs, des jardins ouvriers, des tas d'espaces collectifs, des tas d'arbres, tu vas voir, qui sont absolument magnifiques, puisque maintenant, aujourd'hui, ils ont une centaine d'années, donc ils sont absolument magnifiques.
Alors là, la Cité Jardin, il y a un côté art déco des années 30, carrément. Mais un peu minimaliste.
C'est complètement des lignes un peu épurées, mais ouais, effectivement, années 30. Donc là, je vais me garer, puis on va aller marcher un petit peu à pied, parce que c'est là où tu vas pouvoir voir qu'entre chaque bâtiment, il y a des jardins ouvriers, et puis plein de pelouses, d'espaces verts, et ça, tu peux pas t'en rendre compte quand t'es en voiture. Hop. Tu vois, entre chaque petit bâtiment, il y a des tas de petits jardins ouvriers, donc les gens peuvent louer comme ça un petit jardin.
Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a les usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins. Il y a la bécane de mon frangin. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Moi, je l'ai pas vue, j'ai marché dessus. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin.
Je veux, tu vois, là, en fait, nous, on est dans une cité où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de truc qui t'empêche. Et tous les devants des immeubles, il y a des petites pelouses où les gens ont planté eux-mêmes des fleurs, tu vois, des petits arbres, des machins. Donc, du coup, j'aime beaucoup l'idée que l'espace public soit un espace collectif où chacun puisse faire vivre ce qu'il a envie, quoi.
Alors, quel est le projet donc, du maire pour la Cité Jardin?
Alors, la Cité Jardin, c'est 70 hectares, donc c'est quand même une grosse cité. Il y a 3800 logements et à peu près 8000 habitants. Donc, c'est bon, une grosse cité. 100% PLAI. PLAI, c'est le plus bas loyer du marché. Et t'as le PLS. Alors le PLS, rien à voir, on est toujours dans le logement social, mais c'est tout simplement le double de loyer au mètre carré. Donc autant te dire, nous sur la cité, on ne peut pas se le payer, quoi. Donc là, on est 100% PLAI. Et l'idée du maire, c'est d'abord de casser un tiers de la cité pour en faire des petits pavillons propriété privée avec un petit jardinet individuel. Et puis un tiers PLS. PLS, c'est donc ce qu'on ne pourra pas se payer. Et puis conserver un tiers PLAI. Donc ça veut dire que tu as quand même deux tiers des habitants qui dégagent. Il faut aussi resituer Châtenay-Malabry dans le 92, le département le plus riche de France, et avec une volonté d'intégrer une population beaucoup plus aisée dans ce département. Et donc en fait, nous, là, à l'heure actuelle, les travaux doivent commencer théoriquement en janvier 2018 et on n'a toujours pas vu la maquette. Quels bâtiments vont être touchés, on ne sait pas. Et c'est un peu, si tu veux, c'est vraiment un phénomène global. Là, on est sur la cité de la Butte Rouge à Châtenay, mais ceci dit, c'est un peu toujours pareil. On nous parle de démocratie locale, de concertation citoyenne, de machin, tout ça. Et en vérité, ça n'existe absolument pas, quoi. Et on est un certain nombre, du coup, à s'être regroupés pour construire un comité de locataires pour essayer de défendre la cité, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu les pauvres dégagés de Paris. et venir en banlieue. Et là, maintenant, on est en train de chasser de la première couronne, c'est-à-dire du Grand Paris, les pauvres, pour les emmener encore plus loin du centre, quoi. Donc, du coup, pour nous, c'est important de conserver cette cité en logements sociaux, parce qu'il y en a besoin, et puis parce que c'est le projet originel, hein. Et puis, deuxième axe, moi qui me tient vraiment à cœur, c'est que cette cité, c'est le témoin encore vivant, c'est-à-dire avec des gens, d'une utopie, l'utopie des logements sociaux. Tu vois, ils sont en bon état, même si bien évidemment, il faut faire une réhabilitation, il y a des choses qu'il faut refaire. Mais ça a été construit pour durer. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'on construit, au bout de 30 piges, c'est tout dégueulasse. Il y a des fissures partout, les carreaux se cassent la gueule, enfin, c'est lamentable. Alors que là, on est dans un truc qui a été conçu pour durer et conçu pour y vivre bien. C'est une vraie cité où tu as des écoles, où tu as des stades, où tu as des services publics. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour y vivre, quoi. Tu vois, là, avant, il y avait une PMI et un centre de santé qui ont été fermés. Bon, mais ça, c'est, à mon avis, c'est une politique globale. Donc, du coup, et à la place, ils ont fait la maison des projets. Donc, on y a été ce matin, curieuse quand même. On s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Et du coup, il n'y a rien. Il n'y a même pas une maquette. Il n'y a même pas les emplacements des logements qu'ils veulent détruire ou changer ou réhabiliter. Il n'y a rien, quoi. Du vent. Donc voilà, on en est là, on ne sait pas qui va devoir partir, qui va pouvoir rester, et du coup, quelles conditions va falloir remplir pour pouvoir rester. Et du coup, tu as l'impression que le territoire, il ne t'appartient plus, qu'ils peuvent, s'ils veulent, tout casser, ton histoire, tes images, tes souvenirs, il n'y a plus rien qui t'appartient, quoi. Attends, on va téléphoner à Jean-Claude. Alors Jean-Claude, c'est un homme qui habite ici depuis, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y est né, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes âgées dans la Butte Rouge, et ces gens-là qui ont 70 ans, 80 ans, on a discuté avec des gens, puisque la cité jardin du Plessis Robinson, qui est juste à côté, elle a été démantelée il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Et ben, il y a beaucoup d'anciens qui n'ont pas supporté d'être changés d'endroit, ils n'avaient plus aucun repère, et beaucoup se sont laissés mourir. Ça aussi, il faut en parler.
Les cités jardins resteront le modèle du logement social d'entre les deux guerres.
Hashtag comme un bruit qui court sur les réseaux sociaux.
Les appartements confortables sont intégrés à un cadre de vie qui regroupe bain-douche, salle de réunion, école, dispensaire, lavoir. Bref, dans un objectif autant social qu'urbain, les habitations et les services sont réalisés dans un ensemble cohérent.
Jean-Claude Charrier, je suis né en 1942, rue Robert Hers, là, en pleine guerre. C'est vrai, quand on est natif, quand on a connu ça, on n'a pas envie de partir, quoi. Tous les enfants, les gens de mon âge, on a connu une jeunesse fantastique, là. Le terrain de jeu, c'était le bois de Verrières, quoi.
Et donc, vos parents, ils se sont installés ici
En 1937. C'est-à-dire que ça venait d'être construit et on était les troisièmes locataires dans l'appartement. L'appartement n'avait pas un an et il y avait déjà trois locataires. Mm-hmm. Parce qu'il faut dire qu'à Châtenay, là, c'était vraiment... On était isolés. Hein. Il n'y avait même pas de... La RATP ne venait pas ici. Il y avait un car, on appelait ça le car Citroën, qui venait, qui emmenait les gens à Robinson. Il fallait vouloir, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était le bonheur à côté de tout ce qu'on connaissait, ce qu'on pouvait connaître ailleurs. C'est vrai que... garder le cadre, hein. Et ça date de ça, de 1934, ça a commencé, en 1934. Toute cette tranche-là, les seuls, ce sont des parquets. Il y avait des salles de bain, il y avait l'évier vidoir. Mmh. C'est-à-dire que l'évier vidoir, c'était... Bon, il y avait une pierre à évier avec un grand trou et un réservoir. Et puis quand le réservoir était plein d'eau, de déchets, n'importe quoi, hein, on tirait et tout partait. Et ça partait à la piscine. À la piscine, c'était trié, incinéré. Et ce qui faisait que le chauffage de la piscine, c'était avec le... Voilà, c'était fantastique. Mon père venait de l'Allier, ma mère de la Corrèze. Bon, mon père était venu, comme on dit, à la capitale pour travailler, quoi. Il travaillait chez Renault, Billancourt et après Choisy-le-Roi. Parce que cette cité était habitée énormément avec des ouvriers de chez Renault, chez Citroën, à cette époque-là, peu de gens voulaient venir habiter ici parce que c'était isolé. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on allait à Robinson, on traversait les champs de fraises en bas et puis les vergers de cerises. Hein. Mon père avait deux potagers derrière la maison, plus deux autres à la Cité des Peintres, juste au-dessus du stade actuel. Il donnait par famille une parcelle, mais comme beaucoup de gens ne le prenaient pas, mon père s'arrangeait avec les voisins pour avoir leur parcelle. C'est pour ça qu'il avait quatre parcelles. Mais bon, de toute façon, il n'était pas chien à distribuer les légumes.
Et aujourd'hui, Jean-Claude, vous êtes inquiet alors pour le devenir de la Cité Jardin ?
Ah oui, alors là, moi je suis inquiet, c'est sûr. Hein. Ben, je suis inquiet pas pour moi, parce que je me dis, bon, après tout, j'aurais fait mon temps.
Si vous êtes expulsé et relogé, là, ça ne va pas vous enchanter, ça ?
Expulsé, ça m'étonnerait, mais bon... Ça dépendra de l'humeur du moment.
Parce que c'est comme une épée de Damoclès ça, maintenant, oui, sur la tête de chacun des habitants
bien
ici.
Bien sûr.
Moi, je trouve que c'est dégueulasse. Excusez-moi, je parle.
Vous êtes inquiet, vous, c'est ça, pour votre logement ?
C'est pour les gens qui sont vieux. Ils ont dépensé leur argent, qui paient le loyer. À la fin, ils se font virer. C'est ça. Pour aller renvoyer ailleurs. Et quand ils vont changer, ils vont... monter le prix de loyer, ils n'ont pas le moyen. Et tous 600 ou 700 euros, ce n'est pas suffisant. Ils vont payer 600 euros, qu'est-ce qu'ils vont faire? La manche, il n'y a personne qui leur donne quelque chose. Ce n'est pas bon. Et hier, j'ai parlé avec la gardienne, elle m'a dit, ils vont trier ceux qu'ils payent, ceux qu'ils ne payent pas, ceux qui sont... Alors c'est quoi ça? Et plus, il faut qu'ils déplacent les gens.
Et vous habitez toujours ici ou pas?
J'habite là, à la Paul Lafargue. Ouais. Et la gardienne m'a dit, ouais, ils ne vont pas le démolir, mais ils vont vous déplacer pour faire... Moi, mon appart, il est nickel. S'il me dit qu'il déménage, je vais faire la guerre avec eux. Jamais on ne sort pas, force. Parce que quand tu habites chez les HLM, ça fait 40 ans, ils ne vont pas te jeter du jour au lendemain.
Oh là là, c'était les années folles. Elle était belle, la butte.
C'est bien quand il y avait la fête, là, avec les cirques.
Il y avait le théâtre, il y avait le cirque, les manèges, le théâtre de verdure.
Ben oui.
Oh là là, c'était beau. Qu'est-ce qu'on avait fait comme belle fête?
La valse se tourne, la valse se tourne, écoutez-la. La valse se tourne, la valse se tourne, comptez vos pas. La valse se tourne, la valse se tourne, n'hésitez pas. Ma tête tourne, ma tête tourne, prenez mon bras.
Bonjour madame, je vous fais la bise.
Oui. Je fais partie de la famille, hein.
Jean-Gilbert.
Je le connais, vous le bien.
Oh, tu m'as vu naître, hein.
Ouais.
Ah ouais.
Je t'ai embrassé.
Ouais, tu m'as embrassé.
Je t'ai embrassé.
Avec plaisir, écoute.
Parce que t'es belle.
Merci.
Elle est belle, elle est mignonne. C'est une jolie personne. Avec son petit chignon toujours bien coiffé. C'est la qui est fière du grand café. Elle a toujours le sourire. On dirait une femme en cire avec son beau champignon.
1930, c'était les années folles.
La mère belle,
belle, belle, belle, belle comme le jour. Belle, 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 belle comme l'amour. C'est son nom de femme.
C'est mon nom de
Madame Belle.
Madame Belle.
Alors vous habitez ici depuis combien de temps, vous, Madame Belle? Votre prénom, c'est comment?
Gilbert.
Gilberte. Gilbert Belle, ouais.
Béberte.
Béberte.
Au grand pied. Oh, il y a longtemps que je suis là.
C'était le bon temps.
Puis on est bien, c'est bien.
On a dragué, on a dragué. Oh, il y avait des beaux gars. Il y avait des beaux gars, regardez.
Je ne sais plus, moi.
Il y avait des beaux gars, suivez mon regard.
37, et tu y étais avant nous.
Ah, le Jean-Claude.
T'étais beau quand même. Hein.
T'étais beau. J'étais le petit jeune.
Oh, le petit jeune.
Dans ma cour, il y a un jeune homme, un petit gars qui a les yeux bleus. Je ne sais pas comment il se nomme, c'est de moi qu'il est amoureux. Comme c'était hier jour de fête, et que j'étais sans doute pas mal, il m'a donné des violettes et m'a emmené au bal. La valse tourne, la valse tourne, écoutez-la. La valse tourne, la valse tourne, comptez vos pas. La valse tourne, la valse tourne, n'hésitez pas. Ma tête tourne. J'ai fini dans sa chambrette, il y avait des fleurs partout. J'ai vu qu'il perdait la tête, que ses yeux devenaient fous. Il m'a dit des tas de choses, il m'a embrassé dans le cou. L'histoire est belle, mais je n'ose vous la conter jusqu'au bout.
C'est vrai qu'on est des vieilles, hein.
Hey, moi, j'ai 80...
Hein? T'as 88 et moi, 80, j'ai 87.
88. Et vous êtes arrivée dans les premières années ici, alors?
Ah, oh, mais j'étais cité. Toute petite, hein? J'étais bébé. Tout petit bébé. Monsieur, tu veux se voir? Maintenant, je suis grande. Regarde, je suis presque pas si grande que toi.
Et alors, il paraît
que... J'ai mangé de la soupe. Ah, la soupe, 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 bouillon, yon, 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 yon. La soupe à l'oignon, c'est pour les garçons. La soupe à l'oseille, c'est pour les demoiselles. Voilà.
Et vous avez fait quoi dans la vie, alors, Gilberte?
Oh, un peu de tout.
T'as fait les escaliers?
J'ai fait les escaliers, toute la cité.
Vous êtes de passage parmi nous?
Non, non, moi j'habite ici depuis 30 ans.
Ah là là, j'espère qu'ils ne vont pas nous foutre en l'air. Hein.
On a intérêt à se remuer.
Hein. Hein? Ah oui.
Alors vous êtes au courant de ce projet?
Ouais. Ben, moi je ne le connaissais pas, moi.
Bon, bah ben, qu'ils attendent un petit peu, après je serai dans la cimetière. Coup de l'égalité, ça ira. Tu te rappelles le bassin avec les joncs, les nénuphars et tout? Le père Pujol quand il passait avec son sifflet. S'il vous plaît, pas sur les pelouses. Et on n'y allait pas. C'était ma jeunesse. Ah, si je pouvais revenir en arrière, revenir en arrière, tante la polka.
Il y avait une belle musique, il me serrait contre lui. Il m'a dit des mots poétiques, on est parti dans la nuit. Sur le boulevard de Grenelle, il m'a regardé tendrement. Puis il m'a dit, tu es si belle, que je voudrais être ton amant. La valse tourne, écoutez-la. La valse tourne, comptez
en vrai, ouais.
La valse tourne, n'hésitez pas. Ma tête tourne, prenez mon bras.
Bon ben, bonne fin de journée.
À l'année prochaine.
Petit lexique de la rénovation urbaine ou comment enfumer sous couvert d'informer par Jean-Pierre Garnier. À lire ou entendre les discours officiels, la cité jardin de la Butte Rouge est promise à un bel avenir. Rénovée, redynamisée, renouvelée, restructurée, régénérée, requalifiée, revalorisée. Que de verbes enchanteurs pour célébrer le renouveau promis aux habitants de la Butte Rouge. Sauf qu'il ferait bien de se méfier, au vu des opérations urbanistiques déjà menées, en France ou ailleurs, sous ces appellations peu contrôlées, sinon par les pouvoirs publics et leurs communicants.
Petit lexique de la rénovation urbaine.
C'est voilà. Ça. Bon, allez hop, c'est mon ordinateur un peu lent. Quand tu auras le texte, et puis j'ai pas besoin de t'expliquer.
Ouais.
S'il y a de décrypter le bourrage de crâne.
Alors, Jean-Pierre Garnier, vous êtes sociologue et urbaniste.
Maintenant, je suis à la retraite, mais je ne suis pas en retraite sur le plan politique et polémique.
Alors c'est la Butte Rouge là, qui nous intéresse aujourd'hui. Mm-hmm. Vous êtes penché sur la question alors hein, de cette cité-jardin à Châtenay-Malabry.
Je suis penché concernant notamment les transformations de la région parisienne dans le cadre du Grand Paris, qui est en fait dans le cadre d'une politique appelée métropolisation, qui vise en fait à restructurer et à faciliter l'adaptation du territoire aux besoins des grandes entreprises mondialisées. Et c'est naturellement, ces grandes agglomérations sont en concurrence les unes avec les autres, parce que la concurrence libre et non faussée, qui devait être le principe cardinal et qui l'est en fait, dans le cadre de la Constitution européenne refusée par 56% des Français, elle continue plus que jamais entre les firmes, entre les individus, entre les groupes et entre les villes, pour attirer ce qu'ils appellent d'un côté les investisseurs et la matière, ce sont les cerveaux. La classe dite créative, ingénieurs, cadres techniciens, pubards, créateurs créatifs de tout poil. Et il est bien évident que l'arrivée de ces activités et de ces actifs haut de gamme a pour corollaire le décarbissage ou l'exclusion, l'expulsion des classes populaires, des parties centrales des villes concernées. Et donc la colonisation des anciens quartiers populaires par ces nouveaux venus. Qu'arrive-t-il dans le cadre de la métropole parisienne, Grand Paris? Il ne faut pas oublier que justement tout le système de transport qu'ils mettent en place le Grand Paris Express va rapprocher encore en temps toute une partie de la banlieue. Désormais, maintenant, la Butte-Rouge-Châtenay-Malabry, il va y avoir une nouvelle gare là. Il faut savoir que les gares du Grand Paris, ça va être d'énormes centres commerciaux en même temps, où il y aura à peu près de tout. Non seulement du commerce, mais même un peu de tout, les services médicaux, des salles de stretching, etc. Et des nouveaux pôles urbains. Par voie de conséquence, une cité qui a été conçue originellement comme de l'habitat ouvrier-employé devient très intéressante par sa localisation pour ces nouvelles couches moyennes, cette petite bourgeoisie intellectuelle. Alors il faut savoir une chose, la spécificité de la Butte Rouge, qui est une de ces cités, c'est une cité, on dirait, de HLM, fait partie des quelques prototypes de cités ouvrières qui ont été édifiées par des maires sociodémocrates, pas sociolibéraux, véritablement sociodémocrates, qui ont cherché un habitat social de qualité, même d'avant-garde. On peut dire que par beaucoup d'aspects, il y en a une comme ça à Suresnes, qui est classée quasiment monument historique. Déjà, la Butte Rouge a beaucoup d'architectes, de profs d'architecture qui emmènent leurs élèves. Pour voir ce qu'on faisait comme logement social à cette époque, nous étions dans les années 20-30 du siècle dernier. Donc il y a une architecture beaucoup plus intéressante, tant par les matériaux construits, les espaces publics, le rôle de la verdure. Il y avait jadis un immense bassin au milieu, il est à sec maintenant, en ce qui concerne Châtenay-Malabry. Les logements étaient confortables, bien éclairés. Finalement, on peut dire que par certains côtés, ce type d'habitat dit ouvrier est plus intéressant que certains logements pour classe moyenne qu'on en fait aujourd'hui. Alors, il suffit d'avoir un maire qui joue la politique de, comme ils disent, de requalification urbaine. Alors, requalification urbaine, il faut traduire. Ça veut dire transformer l'espace résidentiel pour le réserver à des gens de qualité. Sous-entendu, pas des ouvriers, pas des employés, mais des classes moyennes. Donc, très simplement, de nettoyer, si on peut dire, pour utiliser le terme qu'utilisent les Américains. Aux États-Unis, ce qui est bien, c'est quand ils font des opérations de ce genre, ils utilisent des mots beaucoup plus directs. C'est « clean off », ça veut dire « nettoyage hein. », ça veut dire « on fait dégager les pauvres pour y mettre des gens plus aisés ». Pour y mettre des gens plus aisés.
Alors ça s'appelle la Butte Rouge, pourquoi ça s'appelle la Butte Rouge?
Parce qu'en fait la Butte Rouge, parce que la terre, elle est rouge, tout simplement, si tu veux. La terre qui est en dessous, elle est rouge.
Je disais en début d'émission, on n'est pas là pour vous dire c'était mieux avant, mais pour pas oublier qu'il y a d'autres logiques de vie que le chacun chez soi consumériste. Alors Antoine, est-ce que la terre rouge de la Butte va résister au nettoyage social annoncé?
Nous l'espérons, affaire à suivre donc, et en tout cas nous resterons attentifs au sort réservé aux habitants de la Butte Rouge et des quartiers populaires en général quand le centre veut phagocyter la périphérie, en chasser ses habitants et en effacer les symboles des avancées sociales.
Alors avec Charlotte, nous allons rencontrer l'histoire d'une autre cité, une cité d'artistes cette fois, qui a hébergé beaucoup de grands noms des livres d'histoire et des musées, mais qui était à l'époque, je crois, beaucoup moins rutilant.
La ruche de Montparnasse, vous connaissez? Derrière les grilles du deux passages Danzig, dans le 15e arrondissement de Paris, se cache un lieu hors du temps. Une cité d'artistes qui a vu passer les plus grands peintres du siècle dernier. Chagall, Soutine, Léger et tant d'autres ont vécu à la ruche. Créée en 1902 par Alfred Boucher, qui rachète aux enchères les pavillons de l'exposition universelle et les remonte sur un terrain vague du quartier Vaugirard, la ruche accueille les artistes désargentés. Mais c'est aussi toute l'émigration juive d'Europe centrale chassée par les pogroms ou anarchiste italien qui y trouve refuge. Un lieu que nous raconte aujourd'hui Léonard Léoni, né à la ruche en 1933 et véritable mémoire de la cité. Un homme au rire contagieux qui nous fait partager ses souvenirs et ses réflexions sur l'avenir de cet espace de création devenu peut-être un peu trop sage.
Il ne faut pas troubler l'inspiration.
Si votre promenade vous conduit passage de Danzig, vous y reviendrez souvent.
On est dans le fin fond du quartier Vaugirard, dans le 15e arrondissement de Paris, tout près du boulevard des Maréchaux.
Là se trouvait le moulin de Vaugirard, domaine avec le moulin de Garnier des deux maîtres meuniers du village.
Et on arrive au bout d'un passage, devant une grille en fer forgé, entièrement recouverte de lierre.
Cet aspect champêtre n'a pas complètement disparu. Et la ruche des arts, désormais maîtresse des lieux, dresse par une verdure vivace et inattendue sa pittoresque rotonde, ancien pavillon des vins de l'exposition de 1900.
Alfred Boucher, 1850-1934. Alfred Boucher était un sculpteur reconnu et honoré. En 1902, alors que l'on démontait l'exposition universelle, il en acquit divers éléments, dont la rotonde conçue par Gustave Eiffel. Remontée par ses soins passage Danzig, elle allait alors devenir, sous le nom de la ruche, le symbole de ce lieu d'accueil pour artistes que Boucher avait généreusement imaginé. Derrière la grille, on voit une porte immense avec deux statues de femmes nues. Fondation La Ruche Cédoux, propriété privée, visite interdite sans autorisation préalable.
Les bruits d'une véritable ruche, bourdonnante de travail, doivent rompre le silence et tout le reste n'est que littérature, ou presque.
Et là, tout d'un coup, on n'est plus dans Paris. Et devant une immense rotonde, avec un toit en verre, on fait le tour pour aller rencontrer Léonard, qui habite tout au fond du jardin. Bonjour. Un homme nu qui est sorti de sa maisonnette, qui a passé la tête devant chez lui. C'est incroyable, la végétation partout, du lierre qui grimpe partout sur les petites maisons. Léonard, Léonie. Bonjour.
Comment allez-vous alors, ça va?
J'ai fait un peu le tour des maisons en vous cherchant, mais...
Mais c'est grand la ruche.
C'est grand, oui.
Quand les chiens, là. Montez, mademoiselle.
Un homme nu qui est sorti de sa maison, ça m'a surpris.
Il est toujours dit, ça choque les gens. Oui, c'est Reynaldo, c'est la Cuba. Il fait toujours ça, il est toujours à poil. Même dans la cour, il va tout nu. Alors, quand il y a du monde qui vient de manger, ça la fout mal, il arrive tout nu. Mais ici, il y a pas mal de... Asseyez-vous au soleil, là-bas.
Il y a une petite terrasse.
Moi, je suis un privilégié ici. Hein.
Vous êtes un privilégié?
Comme je suis né ici, je me rends pas compte. Moi, je suis Léonard Léonie. Mes grands-parents étaient là, vous rendez compte?
Vos grands-parents?
Oui, mes grands-parents étaient là.
Ils sont arrivés quand?
En 22, 23, un truc comme ça. Mon père, je crois, en 24, il est arrivé ici. Il était anarchiste. Et anarchiste, à l'époque, pendant la guerre de 14-18, ils ont refusé de se battre. Alors lui, il a été en Sicile, prisonnier. Et après, quand il y a eu le fascisme en Italie, ils sont venus en France. Parce qu'il était de Carrare. Carrare, c'est une ville anarchiste. Tout le monde est anarchiste là-bas, Carrare. Et alors, il est en France, et c'est pour ça qu'ils ont fait venir beaucoup, beaucoup de gens ici. Tous les types qui venaient d'Italie, ils venaient chez moi.
C'était vos parents qui faisaient venir tous les autres anarchistes?
Ou bien, ils se sauvaient de là-bas, ça allait très mal en Italie à l'époque.
Et comment ils ont atterri ici, alors, à la ruche?
Eh bien, à la ruche, il y avait beaucoup d'Italiens et de Juifs. Tous les gens de l'Est venaient ici. Et les gens étaient ensemble. Il y avait la misère, mais il y avait une amitié assez formidable. Ils venaient tous ici parce que c'était les loyers, les mois. Ici, on payait le loyer si on pouvait, si on pouvait pas. Alors, ils venaient tous ici. Il y avait une colonie italienne et beaucoup de juifs.
Alors, du coup, vous êtes né ici?
Oui, oui. C'est pas de ma faute, c'est comme ça.
Dans cette maison-là, non?
Ça, c'était la maison de Boucher, du créateur de la ruche.
Alfred Boucher.
Oui.
Un sculpteur.
Oui, oui. Mais alors, lui, il était un peu fou parce que, il acceptait tout le monde ici. Il y a beaucoup de gens abstraits qui faisaient de l'art abstrait et tout. Il y avait Léger, il y avait Chagall, il y avait tous ces gens-là qui étaient là. Alors que lui était très académicien et tout. Mais c'est ça qui était formidable. Mais on est bien ici, regardez.
Chagall, vous vous souvenez, quand vous aviez 20 ans,
oui.
Vous habitiez La Ruche. Qu'est-ce que c'était que La Ruche?
La Ruche, c'était un des pauvres bâtiments qui existent d'ailleurs encore et sont en bois. Quantité des ateliers où on peut louer et vous pouvez ne pas payer aussi. Moi, je voulais payer. J'étais considéré comme riche et les gens, les voisins venaient manger un peu chez moi.
Ce lieu, il est né comment? C'est la volonté d'Alfred Boucher.
Oui, il s'est promené en voiture et il s'arrêtait au café boire un coup. Et il a vu que le terrain était à vendre. Il a acheté le terrain et après l'exposition 1900, il a acheté tous les bâtiments. Parce que c'était un mécène, ses parents étaient ouvriers et c'est pour ça qu'il voulait donner du change à tout le monde. Moi, j'ai connu après-guerre, il y avait Robert Roll, Thomson, De Gialard, Mouly, Sima, il y avait tous ces types importants. Puis il y avait plein de gens inconnus qui étaient là aussi. Tout était libre à La Ruche. Pendant la guerre, tous les Juifs sont barrés. Et puis à la libération, puis c'était délabré, La Ruche. C'était un peu cradingue, hein. Alors personne ne voulait venir ici. Et ça a repris après-guerre. Après-guerre, il y a eu plein d'artistes qui sont rentrés à La Ruche parce que tout était vide, presque tout était vide.
Si vous ouvrez une porte, vous découvrirez l'un des 140 ateliers que hantèrent autrefois des gloires d'aujourd'hui. Celui-ci, où peint un jeune inconnu, fut l'atelier où Chagall, dont les amateurs se disputent les œuvres, commença sa carrière. À deux pas, l'atelier de Rébérol fut celui où travailla Fernand Léger, puis Zadkine. Et c'est ainsi que La Ruche fut, à proprement parler, le berceau de l'école de Paris. Allez voir La Ruche, ce coin presque inconnu de l'histoire de l'art.
Bon, vous voulez qu'on fasse un tour dans l'atelier, là, voir. Oui.
Allons-y.
Ça, c'est un De Gialard, ça. Il n'arrivait pas à faire les mains, il a coupé. Regardez.
Ah oui, sur le tableau, là, tout que ça s'arrête aux épaules.
Oui, il n'arrivait pas à faire les mains, il a coupé.
Étude pour un portrait de Léonard.
Voilà.
La Ruche, 1950.
Vous vous rendez compte, en 50. Mais voilà La Ruche, comment c'était dans le temps. Allez voir dehors.
Ah, ouais, maintenant, il y a une grande résidence.
Et alors ça? Ça, ça a été construit il y a peu de temps. Mais tout ça, c'était La Ruche d'antan.
Tout là où il y a des immeubles maintenant,
oui,
la résidence.
Ça aussi, c'était La Ruche.
Ils ont vendu le terrain.
Oui. Alors, il y a ça qui reste et la petite maison, là.
Là, sur le dessin, on voit des balançoires.
Oui, parce qu'il n'y a pas de bagnole à l'époque. En 1908, là. Alors ça, j'ai travaillé pour Bazaine au métro, Cluny, vous savez. Ouais. Alors ça, c'est un petit Bazaine, ça c'est un petit Chagall, ça c'est un Léger. Voilà, ça c'est ma collection privée.
Un Chagall, un Léger.
Oui, et ça vous savez, ça c'est un Polyakov. Et j'aimais pas Polyakov à l'époque. Ma femme adorait, elle dit, je suis un petit Polyakov, mais qu'est-ce que tu m'en... J'aimais pas Polyakov, c'est marrant la vie. Mais ça valait rien à l'époque. Et maintenant j'aime ça, c'est marrant.
Vous l'avez quand même mis derrière la porte. Hein.
Ouais, mais je l'ai mis là parce que j'ai tellement de trucs, je ne sais plus où les mettre. Et regardez tout ça. Ça, c'est un Debray. Ça, c'est La Ruche. Puis ça, c'est quoi? Je ne sais même pas. Ah, ça, c'est un Thomson.
C'est entassé comme ça sur votre meuble?
Mais oui, mais je ne peux pas. J'en ai, si vous saviez. Il y a plus de 100 dessins. Ça, c'est un ami là-bas.
Et là, c'est Bonne Année,
Chagall. Chagall.
Avec l'espoir que nous pourrons réaliser nos rêves dans cette année. Marc et Vava, Chagall.
Oui, ça fait à peu près 50 ans, à peu près. Vous vous rendez compte. Mais vous savez, c'est un phénomène, Chagall.
C'est un phénomène, Chagall? Pourquoi?
Un jour, on était à Saint-Paul-de-Vence. Alors, on travaillait avec Mélano, toute une équipe. On va chez lui, alors il habitait pas loin de la France, assez loin, enfin, on va à pied. Alors Mélano dit, on va boire un bon coup là-bas. Arrivé là-bas, chacun nous dit, j'ai de l'eau formidable, parce que Mélano est toujours sous, toujours sous. Arrivé là-bas, nous donne de l'eau très fraîche.
De l'eau?
Même après, moi j'ai travaillé avec Mélano. Mélano, c'est le premier qui a fait la mosaïque moderne. Parce que la mosaïque, c'était un plat. Lui, il a incliné les pierres pour donner beaucoup plus de relief. Saint-Paul-de-Vence, musée Mag. Et ben, toute la mosaïque, on l'a faite avec lui là-bas. Il y avait Braque, il y avait Talcott, il y avait Chagall. On a fait toute la mosaïque là-bas pour lui.
Il a vécu ici aussi?
Vécu ici aussi. Et il est mort ici. Alcoolique. Surtout son alcoolique. C'est incroyable quand même.
Vous avez appris comment la mosaïque?
C'est par hasard, par hasard. J'ai été à Biote, ils faisaient la piscine de Braque. Il m'a dit, tu restes avec moi, puis je suis resté avec eux. Et puis avec eux, on était en Israël, on a fait le Parlement d'Israël. On a fait une grande mosaïque, un truc énorme. On est resté 6 mois là-bas. On a fait tous les trucs comme ça.
La vie d'artiste, c'est l'errance, l'obscurité, la misère. Mais c'est la dernière chance de tutoyer l'univers. Au loin dans le paysage des oubliés de l'histoire, on voit la charrette sans âge que dévore la nuit noire. Quand les critiques sont mauvaises, on prend un air de mépris. Et l'on se dit que foutaise, notre génie reste incompris. Entre nos mains, l'argent file, et l'on se paie de discours. Les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Surtout les 30 derniers jours.
Un jour, il y avait Robert Roll, il travaillait, et Robert Roll, quand il est parti de l'arrêt, il a mis un type, et Robert Roll, à l'époque, il était communiste, tout le monde était communiste, ça faisait bien, et alors, il avait mis un type qui était catholique, mais vachement croyant. Alors je dis à Paul, mais comment que c'est, toi, t'es communiste, tu mets un type? Il m'a dit, oui, mais il a besoin de travailler. Il y avait un côté sympathique, formidable à l'époque, il a besoin de travailler. Et moi, j'ai travaillé beaucoup pour lui. J'ai posé beaucoup pour lui, et en échange, j'étais amoureux de Degas étant gosse. Alors, j'avais une petite danseuse de Degas, alors il me dit, non, je veux pas faire Degas. Alors, je dis, si tu n'aimes pas Degas, je pose plus pour toi. Alors, il m'a fait le petit Degas qui est là-haut.
La petite danseuse.
Ouais. Alors, je lui ai amené un livre de Degas, et il a fait ça. Et c'est joli, hein.
Ouais.
Mais moi, j'ai appris beaucoup par Paul, c'est un grand monsieur. Il y avait lui, il y avait Thompson, il y avait deux Galards, puis toute une équipe, ils étaient très soudés à l'époque, très très soudés. Il y avait une amitié très très franche. Et puis à la ruche, il y avait tellement d'étrangers que le racisme n'existait pas chez nous. Tout le monde était copain, on savait pas si un tel était italien ou quoi, on s'en foutait de ça. C'est peut-être ça qui nous a soudés, je ne sais pas. Maintenant, c'est un peu mort, la ruche est un peu mort. Je vous ai parlé de tous ces peintres, Sima, Mouly, Robert Roll, de Gallard. Tout ça, c'est des gars qui faisaient un boulot, très peu de temps, ils étaient garçons de café. Mais aujourd'hui, ils sont tous les gens que je connais, ils sont tous fonctionnaires. Ils peignent, mais je veux dire, quand on devient tous fonctionnaires, c'est qu'on ne croit pas en soi-même. Tous ceux que je connais à la ruche qui rentrent maintenant, ils sont tous profs. Ça prouve qu'ils n'ont pas, ils comptent sur leur retraite. Et à l'époque, les gars comptaient que je vais avoir du génie, même si c'est pas vrai, mais ils y croyaient à ça. C'est quand même incroyable, un truc comme ça.
La ruche, à partir de la fin des années 50, elle a été menacée de démolition. Oui. Elle a fallu être démolie même.
Oui. Et c'est Madame Sédou qui a sauvé la ruche. Sédou, c'est la Gaumont. Elle a sauvé la ruche Et elle en a fait ce qu'elle m'attend. Heureusement qu'elle était là, heureusement qu'elle était là. Ils avaient tellement démoli de cités. Il y en avait rue Blomet, il y avait des cités d'artistes. Il y avait plein de cités.
Et toutes, elles ont été démolies pour faire des résidences et des immeubles. Comme
ils
ça.
Ont fait des trucs horribles, horribles. Ils ont détruit l'âme.
Des peintres, Modigliani, Fujita, Gauguin, des sculpteurs, Rodin, Mayol, des musiciens, Claude Debussy, des poètes, Blaise Cendrars, ont vécu, créé dans les ateliers d'artistes de la rive gauche. Mais depuis 10 ans, ces cités disparaissent sous les coups des promoteurs. Il n'en reste aujourd'hui que 2 ou 3, et même celles-là sont menacées. Seule, pour l'instant, la ruche à Montparnasse vient d'être sauvée.
Il y a eu tout un comité aussi de soutien qui s'est monté avec des artistes, oui, et présidé par Chagall.
Oui, on a fait un comité. J'ai toutes les lettres de Chagall. Il y avait tous les gens connus. Il y avait Marc, il y avait tout le monde qui a participé au sauvetage. Et moi, je connaissais Gisèle Halimi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Grande avocate, féministe.
Et si la ruche a été sauvée, c'est grâce à elle. Elle a vraiment organisé tout, Gisèle Halimi. C'est une fille formidable. Mais la ruche, à l'époque, c'était vraiment triste. Tous les carreaux étaient cassés, c'était vraiment une débâcle. Et comme ça devait être démoli, les gens ne faisaient plus de travaux chez eux. On laissait à l'abandon. Mais ils voulaient construire, ils allaient construire un HLM. Ça aurait apporté beaucoup plus d'argent.
Les muses n'aiment pas vivre en meublé.
Ici, vous n'êtes jamais parti, vous n'avez jamais eu envie de partir.
Je vais vous dire un truc. J'ai jamais quitté le 15e. C'est Pignon, vous connaissez Pignon de nom.
Ernest Pignon, Ernest.
Oui. Il m'a fait un catalogue. Le voilà. Il m'a fait la dédicace de mon catalogue, c'est gentil. Hein.
Lui, il vit ici, à la ruche.
Oui, oui.
Léonard a passé sa vie à la ruche, plus de 70 ans. À 9 ans, modèle de Ribérol. On pourrait croire qu'il n'a jamais dépassé la rue des Morillons. C'est juste au bout de la rue, là. Oui, histoire de ne pas se perdre. Bien qu'une fois, je l'ai vu arriver à la Courneuve, comme s'il revenait du pôle Nord.
Et je suis arrivé, comment on t'a accompagné? Je dis oui, ça m'étonne pas.
Tout ça, c'est vos œuvres. Ouais. C'est des animaux en mosaïque.
Ouais. Ça, c'est des animaux aussi. Ça, c'est des personnages.
Là, c'est plus de la mosaïque.
Non, ça, c'est une petite sculpture comme ça. Et ça, c'est les tables. Ça, elles sont pas très bonnes, les photos, mais enfin.
Tout en mosaïque aussi,
ouais.
Des poissons.
Mais ça, c'est ce que j'ai fait. Regardez,
vous
63.
Avez fait la fresque...
Maison de la radio.
Maquette de Bazin, fresque murale, maison de la radio, en voilà. 63.
Rendez compte, vous étiez pas né à l'époque.
Eh bien, nous avons tout de suite demandé quand même à Bazin d'intervenir pour nous dire ce qu'il a fait.
Eh bien, il s'agissait du foyer de la musique. Par conséquent, j'ai essayé d'exprimer la musique. C'est-à-dire que ce sont de grandes formes obliques, ascendantes, qui essaient de s'accorder aussi avec la pente du plafond, qui était très belle. Et c'est de la musique, c'est en même temps de l'eau, des arbres. Nous avons fait vraiment ce mur pendant 4 mois, pierre à pierre, en modifiant l'inclinaison des pierres suivant la lumière, comme on l'a toujours fait dans la grande tradition de la mosaïque.
Vous l'avez vu, la mosaïque ? C'est un mur énorme. Il doit faire, je dis peut-être des conneries, 7 mètres de haut. Et alors, ce qui est très marrant, il y a des couleurs qui n'existaient pas, on n'arrivait pas à voir. Alors, on a fait les couleurs avec du plastique. Et pour que ça ressemble plus, on a mis du verre en poudre dedans. Et ils s'en sont jamais aperçus. Et on s'en aperçoit quand on touche. Quand on touche, c'est pas froid. Mais la mosaïque est très belle. Hein. C'est abstrait, mais enfin, c'est très beau.
Et là, votre atelier, il est en bas.
Oui. Ça, c'est un boucher, ça. Attention de ne pas tomber. Hein. J'ai peur que les gens tombent dans cet escalier. Alors, tout le monde me dit, comment tu fais? Mais je suis habitué, moi, à l'escalier.
Ah, il est très étroit et très raide.
Alors, comme ma femme avait le cancer, qu'elle ne pouvait pas, je ne pouvais pas faire de ciment. Alors, on m'a donné des trucs photos, regardez. Et ça, c'est des grattages de trucs photo. C'est des papiers photo comme ça. C'est ça.
C'est des cartons noirs.
Voilà. Et alors j'arrive à gratter ça. Alors j'ai fait tout ça comme ça.
Ah ouais.
Oui, j'ai gratté comme ça.
C'est beau. Ça fait des personnages qui sont blancs.
Voilà, je me suis amusé à faire ça. Enfin, il faut bien s'amuser un peu, voilà.
Et là, au rez-de-chaussée, alors c'est votre atelier.
Oui, tout ça c'est rempli de mosaïques, rempli des tonnes de mosaïques. Et j'ai une cave remplie de mosaïques. Et alors vous savez ce qui est très marrant, j'ai fait des raquettes.
Ah oui, là, des raquettes avec des cadres en bois, des vieilles raquettes.
Et on n'en trouve plus. Et alors, il y a Castel, vous connaissez la boîte de nuit Castel. Et alors, il vient le mec, il me prend des raquettes. Et tous les champions du monde ont des raquettes. Quand je suis allé chez Castel, il leur offrait une raquette. Alors, il me dit, tu vas exposer les raquettes là-bas. Il m'a dit, vous savez quoi? Vous les vendez pas assez cher, ça fait pas sérieux. Et alors, j'ai fait des raquettes, mais j'en ai fait des... Regardez, c'est marrant.
C'est le cadre de la raquette en bois, et au milieu, vous avez fait de la mosaïque.
Ouais,
et là, c'est une main.
Et le plus dur, c'est pas la mosaïque, c'est trouver les raquettes. On trouve plus de raquettes. Alors, quand j'ai la campagne, les gars m'en donnent des cassés qu'ils ont trouvés. Oh, j'en... Mais il faut que j'en fasse, parce qu'il y en a qui sont intéressés. Il y a une femme qui est venue l'autre jour, elle m'a dit, ça me plaît, j'aurai une raquette.
Et là, il y a un cheval qui est magnifique.
Oui, alors ça, j'avais
tout en mosaïque.
Oui, je l'avais mis dehors, mais je l'ai rentré parce que tous les gosses montaient dessus. Alors si un gosse tombe, elle est grande.
Ouais. Il y a plein d'autres animaux, mais c'est des animaux un peu imaginaires.
Oui, un peu imaginaires. Et aujourd'hui, il va faire chaud. Hein.
Ouais. On est arrivé dans le jardin.
Ce qui est terrible, avant il y avait des sculptures qui travaillaient là. Tout le monde travaillait dehors. Maintenant il n'y a plus un chat. Il n'y a pas un chat ici.
Ils sont où?
Oui, je ne sais pas. Ici c'est inhabité. Non, il n'y a personne. Et puis c'est ça, c'est un bel atelier. Moi je suis né là-haut. Regardez.
Dans cette maison en face.
Et alors ça aussi c'est vide. Tout est vide.
Et là, pareil, c'est tout des ateliers tout autour.
Oui, c'est agréable.
Ouais. Il y a des bambous, il y a même un aquarium là-bas. Ouais.
Et ça, c'est pas des enfants de la ruche. Ici, ils veulent pas de chiens ni de gosses.
Il n'y a plus d'enfants qui vivent à la ruche.
Il n'y a pas d'enfants. Quand moi j'étais gosse, il y avait plein d'enfants, mais c'était trop. Et là, il n'y en a pas du tout. Ça, c'est l'ex-femme de Robert Roll qui habitait. Mais il n'y a plus jamais personne. Je trouve ça scandaleux. C'est un peu du folklore, quoi.
C'est devenu du folklore?
Oui, un peu du folklore. D'ailleurs, l'autre jour, il y a des gens qui sont arrivés qui croient que c'était une maison de Dieu, ici. Mais sans blague, ils m'ont dit c'est une maison de Dieu. Et regardez la porte. Avant, elle est toujours ouverte. Maintenant, c'est le liard qui l'envahit. Enfin, c'est comme ça.
Les bruits d'une véritable ruche, bourdonnante de travail, doivent rompre le silence. Et tout le reste n'est que littérature. Ou presque.
Un grand merci à Léonard, Léonie, merci également à Charles, à Karine Desambrosi et je vous recommande vivement le très beau texte de Jacques Chapiro, La Ruche et l'École de Paris, publié en 1958.
C'était Comme un bruit qui court. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'émission à l'adresse franceinter.fr. Laissez-nous vos messages, abonnez-vous au podcast. Juste après les infos, les routes de la musique avec Trandé Manoukian et nous on se retrouve samedi prochain à 16h pour la dernière émission.